Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews culture et histoire de Timeline, en partenariat aujourd'hui avec le Salon Histoire de Lire à Versailles. J'ai la chance de recevoir Yves de Gaulle, ancien conseiller d'État, petit-fils du général évidemment, pour le livre Chevalier solitaire. Bonjour Yves.
Bonjour.
Je suis vraiment ravi de vous recevoir. D'abord, pourquoi ce livre? Comment l'idée vous est venue?
J'ai lu, en lisant les premières pages des mémoires de mon père, qui s'appelle Mémoires accessoires, j'ai découvert ce que j'ignorais complètement, que nous avons eu un ancêtre qui se prénommait Géant de Gaulle, qui a vécu au début du XVe siècle et qui était à l'époque, c'est la seule source historique que nous ayons conservée, et qui a vécu, qui a été capitaine de la garnison et du château de Vire en 1417 et 1418. Alors, la famille de Gaulle avait beaucoup d'archives autrefois. Je dis autrefois parce que les archives de notre famille ont été volées par les Allemands par la Wehrmacht en 1940. Donc il nous reste deux, trois petites choses et ce petit document écorné, sale, pas très clair, faisait état de l'existence de ce personnage et je me suis dit...
Eh ben on va augmenter le son, on va essayer. allez-y.
Et je me suis dit, je ne sais rien de Jean de Gaulle, je sais quand est-ce qu'il a vécu approximativement, donc je vais inventer sa vie. Dans une époque très troublée, parce que c'était pour la France la troisième partie de la guerre de Cent Ans, et dans une époque extraordinairement tumultueuse, parce que l'Europe était en plein bouleversement. Il y a évidemment la guerre, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait les Turcs qui étaient à nos portes. Il y avait le schisme dans l'Église qui se terminait, mais qui laissait encore beaucoup de soubresauts. Et comme l'Europe à l'époque était chrétienne, ça ne facilitait pas l'existence politique, et tout ça dans un monde, au fond, où et les rois, et les ducs, et les papes, et les autres s'occupaient énormément, pas tant de la vie spirituelle ou de l'intellectuel, mais des richesses, de la constitution des royaumes et des frontières, et évidemment de la richesse que ça pouvait apporter. Donc c'était à la fois une époque extraordinairement riche sur le plan intellectuel, parce qu'on était à l'aube des grandes découvertes, même si en même temps, il y avait énormément de découvertes qui étaient déjà faites. Mmh. Et puis, c'était aussi une époque extraordinairement rugueuse, voire violente, que tout le monde connaît.
Oh oui.
Et qu'on a un petit peu oublié, parce que le Moyen-Âge, même si c'est la dernière partie
c'est
du Moyen-Âge...
La dernière partie, c'est la fin déjà.
Le Moyen-Âge, peut-être qu'il est encore parmi nous.
Ah, ça, on pourra terminer l'émission effectivement comme ça, la discussion comme ça. Justement, vous parliez des archives. Est-ce que ces archives, on pourrait les retrouver en Allemagne, vos archives?
La question se pose. Elles ont été embarquées par la Wehrmacht. Donc, on connaît les Allemands. Ils sont très méticuleux, très soigneux. Peut-être qu'elles existent encore quelque part.
Vous n'avez pas essayé, en
fait? Non, on n'a pas essayé.
Personne n'a essayé.
Non, personne n'a essayé. Il faudra peut-être que j'essaye moi-même.
Ah, ce serait une bonne idée, effectivement.
D'essayer de contacter, parce que j'ai eu un arrière-arrière-grand-père qui était archiviste, un arrière-grand-père qui était prof, son père lui-même qui était archiviste.
Quelle famille,
etc. Donc, il y a une famille qui a creusé le sujet, y compris à l'époque, le petit sujet de la famille de Gaulle, parce que c'était intéressant de savoir ce qu'ils étaient devenus. Et voilà, donc il y a la trace de celui-ci. Il y en a eu d'autres avant et puis d'autres après. On arrive à dessiner une espèce d'échelle qui nous permet de dire, dans notre famille, on considère comme vraisemblable que Jean de Gaulle fut l'ancêtre du général de Gaulle.
Géant, effectivement, avec un H, avec un H au milieu, comme on disait. D'ailleurs, Jeanne d'Arc,
Jeanne d'Arc, absolument.
C'était la même chose. Est-ce qu'il y a eu un travail de recherche très important de votre part?
Un travail de recherche immense. Immense parce que moi, je ne savais à peu près rien de cette époque. Donc, j'ai cherché ne serait-ce qu'à visualiser ou à essayer de visualiser les circonstances. Je prends des exemples qui sont tout à fait amusants. Une fenêtre, ça existait? Et si oui, ça ressemblait à quoi? Comment étaient les toits? Qu'est-ce qu'on trouvait dans les auberges? Etc, etc, etc. Le pont royal à Paris, il était construit comment? Parce qu'il y a une scène qui est dans le livre, qui se passe sur le pont royal. Comment est-ce qu'il a été construit? On a totalement oublié tout ça aujourd'hui, mais... Les ponts, il y en avait très peu à l'époque, mais les ponts qui traversaient la ville et qui permettaient de rejoindre les rives de la Seine étaient régulièrement emportés par des crues très violentes du fleuve.
Oui.
On a tout à fait oublié cet aspect-là aujourd'hui, mais les événements climatiques étaient extrêmement violents en ce temps-là.
Oui, on croit qu'on a tout inventé aujourd'hui.
On croit qu'on a tout inventé, mais bon, c'est pas le cas. Et comment est-ce que tout ça se passait ? Quelle était la largeur du pont ? Bon, ce sont des détails, mais c'est pour se représenter les choses. Et puis quand Jean s'en va faire son voyage en Europe, bon, il part en Flandre parce que la famille de sa mère était de Flandre. Et puis après, il descend sur le Rhin, en tout cas une partie. Il va jusqu'en Italie. Ça ressemblait à quoi les villes à l'époque ? Comment est-ce qu'elles étaient remparées ? À quoi ressemblaient les églises ? Sous quelle porte et par quelle porte on devait passer pour y parvenir, etc. Enfin, il y a toute une visualisation des scènes que j'ai essayé de reconstituer pour, dans la mesure du possible, évidemment, faire en sorte que quand Jean rentre dans une ville, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville sur laquelle on peut fonder deux, trois choses.
On a des sources.
On a quelques sources et que j'ai essayé de pas dire n'importe quoi.
Voilà, on a l'impression que vous avez pris plaisir, en tout cas, à l'écrire.
Oui, ça m'a beaucoup amusé.
Vraiment, ça se voit.
Ça m'a beaucoup amusé. Vous avez d'ailleurs pu remarquer qu'il y a déjà 520 ou 530 pages.
Oui, j'ai bien remarqué, oui.
Un certain nombre de mes lecteurs trouvent un peu long. Mon vieux papa m'a dit, mais tu sais, t'as été trop long. Et alors je lui dis, mais je me suis restreint, parce que si je m'étais écouté, j'en aurais facilement écrit 200 pages de plus.
Il y a un tome 2, dites-le tout de suite.
Non, il n'y a pas de tome 2. Non, il n'y aura pas de tome 2, parce qu'il finit par mourir.
Mais oui,
donc
je sais.
On ne sait jamais, on peut faire ça.
C'est la mode. Pourquoi l'avoir écrit à la première personne ?
Parce que je me suis dit que c'était la meilleure manière de pouvoir dire le maximum de choses. Alors non pas que la première personne est une personne forcément en soi omnisciente, je veux pas évidemment, parce qu'il faut rester modeste, essayer de me mettre sur les traces de Marcel Proust, qui a poussé l'exercice jusqu'à son degré ultime, c'est pas ça, mais je me suis dit, si c'est moi qui parle, si c'est Jean qui parle, ça permet de creuser, en fait, d'aller jusqu'au bout de sa pensée ou de ses pensées. Ça permet aussi une deuxième chose qui était, à titre, pour moi, un titre de précaution. C'est qu'à la limite, si c'est lui qui dit, qu'il le dit, et qu'en même temps, ce qu'il dit, qu'il le dit, c'est une bêtise, c'est pas très grave, parce qu'il a le droit de se tromper. On ne sait pas tout. Donc, il a droit à sa subjectivité, il a droit à commettre des erreurs, il a droit à avoir une vision erronée ou tronquée des choses. Et donc, il n'est pas obligé d'être totalement exact sur tous les sujets, comme si ça aurait pu commencer à être le cas s'il y avait eu plusieurs personnages et si la parole a été venue de plusieurs endroits différents.
D'accord. Donc, le « je », ce n'est pas vous. Le personnage, ce n'est pas vous dedans.
Le « je », ce n'est pas moi. J'ai
un peu de vous, quand même.
Eu un jour un commentaire qui m'a troublé parce que tout le journal, c'est une sorte de journal, s'adresse à quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui est son frère dans le texte, et qui se trouve assez curieusement, j'y avais pas pensé quand je l'ai fait, qui se trouve être le prénom de mon père.
Bah oui.
Et donc, certains m'ont dit, oui, mais si on a une lecture un peu psychanalytique de votre ouvrage, en fait, vous racontez dans ce livre à votre père ce que vous êtes ou ce que vous auriez été dans d'autres circonstances. Bon, c'est une lecture. Elle me trouble un peu parce que je ne la crois pas totalement fausse.
Ah, c'est intéressant.
Je ne la crois pas totalement fausse.
Il faut relire différemment le livre.
Et effectivement, alors ça relève un petit peu de la famille telle que moi je la vis et telle qu'elle nous constitue. C'est que l'ombre portée du nom de De Gaulle est tout à fait écrasante, qu'il faut essayer de survivre tout en étant fier de cet héritage, mais en étant quand même écrasé par le poids que ça représente. Et je me suis dit, je vais créer mon espace de liberté en vivant une vie qui est la vie supposée d'un de mes ancêtres, mais qui la mienne s'était déroulée au Moyen-Âge, qui aurait pu être éventuellement la mienne.
Vous auriez aimé ça.
Quelqu'un qui assume comme il peut l'héritage familial, l'agent de Gaulle devient militaire, capitaine d'une ville, il fait la guerre contre les Anglais, etc. Mais au fond, c'est pas son truc. Son truc, c'est de faire autre chose, c'est de faire des études, c'est de réfléchir, c'est de parcourir le monde, c'est de voir ailleurs ce qui se passe, et c'est de commencer à aborder le monde d'une manière un peu plus riche, un peu plus large et un peu plus mouvementée que ce qui résulte exclusivement et uniquement de ce que lui a demandé son père, en fait.
En le lisant, je trouvais merveilleux de lire cette période du Moyen-Âge qui est absolument somptueuse. Mais je me suis dit, puis en plus, l'ouvrage ressemble à une brique. Effectivement, vous posez la première pierre d'une œuvre et vous allez raconter l'histoire de votre famille. Qu'elle soit inventée, vous le dites dès le départ, mais romancée.
Alors, pour être tout à fait franc, c'est exactement l'inverse.
Bon. Je vous le dis,
parce que j'ai fait un premier livre qui s'appelle « Un autre regard sur mon grand-père oui. », qui a essayé d'aborder de manière thématique, avec des thématiques croisées, non pas les souvenirs que j'ai sur mon grand-père, mais ce que mon grand-père m'a apporté, comment est-ce que j'ai pu le connaître, et quelle a été ma façon de m'entretenir avec lui, de toute une série de sujets dans tous les domaines, les livres, la politique, etc. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Ma République », qui raconte au fond comment est-ce que Charles de Gaulle d'abord et puis le général de Gaulle après a réfléchi, puis peu à peu construit, en regardant ce qui se passait autour de lui et ce qu'il a vécu, les institutions de la France qui allaient devenir la constitution de la Ve République. En tout cas dans sa version originale, qui était la sienne, hein, c'est-à-dire jusqu'à 1969. Le troisième livre, Chevalier solitaire, c'est sur Jean de Gaulle. Alors il y a encore une référence à de Gaulle, mais enfin elle commence à être lointaine. Et c'est un peu l'illustration de mon propre décollage, pour ne pas dire mon propre éloignement vis-à-vis de cette famille qui m'a beaucoup marqué, mais dont maintenant que j'ai 71 ans, vous me direz c'est tard, mais
c'est jeune aussi.
Sinon, après tout, pourquoi pas, dont j'éprouve le besoin, non pas de m'éloigner, mais bon, de vivre à ma manière un petit peu autre chose. Et le quatrième, sur lequel je suis en train de travailler, va s'intéresser à un sujet totalement différent, qui n'aura absolument rien à voir, même si, mais je ne vais pas en dévoiler davantage, même si le personnage sur lequel je réfléchis a des visions et une conception de la vie publique qui, par certains aspects, ressemble assez à la vision du général de Gaulle sur les institutions.
D'accord. Justement, la façon dont vous écrivez, vous êtes un écrivain solitaire, vous écrivez le matin, vous...
Oui, je trouve que c'est un travail solitaire, fait pour les solitaires. J'ai jamais compris les cours qui existaient dans les universités américaines sur l'écriture collective ou l'écriture automatique. Ça me dépasse complètement. Moi, je travaille tout seul. Je ne travaille que le matin parce que l'après-midi, je ne suis pas productif. L'après-midi, je fais autre chose. Je lis d'autres livres, je vais voir, etc. Ça me sert à la fois m'aérer et puis à réfléchir tout en y revenant. Hein. Il m'arrive de revenir sur le texte en fin d'après-midi. Mais pour l'essentiel, c'est le matin avec ce à quoi j'ai pensé pendant la nuit parce que je ne dors pas beaucoup. Et du coup, ça tourne. Et,
je peux comprendre tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? C'est les recherches ou l'écriture en elle-même ?
Ah non, je trouve que l'écriture, c'est fascinant. Ouais. C'est fascinant parce que vous apercevez, c'est une banalité de le dire, mais quand on n'a pas fait soi-même cet exercice, on ne le croit pas. C'est que le texte, il acquiert sa vie, il vit. Je ne dis pas qu'il vous échappe, mais il parcourt son propre chemin, il a sa propre logique, sa propre structure, sa propre manière de se développer. Il vit non pas indépendamment de vous, parce que c'est vous qui tenez la plume, mais on sent bien qu'il n'y a pas, comme diraient les mathématiciens, il n'y a pas application bijective entre soi-même et le texte que vous écrivez. Il se passe autre chose. Il a son existence, et cette existence-là, que vous ne maîtrisez pas totalement, parce que vous êtes entraîné à dire et à écrire des choses que vous n'aviez pas prévu de dire et d'écrire, c'est un exercice, je trouve que c'est une très grande richesse. C'est à la fois jouissif à certains moments, très déprimant à d'autres, mais c'est un exercice
qui vous a plu, en tout
cas. Qui me plaît, et surtout, je ne suis plus un perdreau de l'année, et ça m'aide à vieillir, parce que faut continuer de construire, de réfléchir, de travailler, de grandir peut-être, ouais, oui, absolument, oui, de continuer.
Je comprends tout à fait. Ouais. On sent bien les racines chrétiennes de la France. Ça fait du bien.
Qui peut prétendre autre chose que l'Europe de l'époque fut une Europe mais totalement chrétienne. Il y en a, sûr, bien sûr. Ne pas le reconnaître est une ânerie profonde. Je ne sens faire référence à un ancien président de la République qui n'a pas voulu l'avouer.
On ne va pas dire son nom.
On va
rester entre nous.
Mais c'est évident, bien sûr. Avec tous les défauts de l'organisation. D'ailleurs, c'est l'un des sujets du livre, en particulier autour du procès de Jeanne d'Arc. Ce procès de Jeanne d'Arc, organisé par une partie de l'Église, évidemment sous l'instigation des Anglais, qui maîtrisaient le processus, qui a été un procès politique de A à Z, jusqu'à tripoter, triturer les procédures de façon scandaleuse. Enfin, ça a été quelque chose d'immonde. Mais c'est l'Église qui en a porté la responsabilité. Et c'est si vrai que quand Charles VII, qui a été un grand roi, mais comme tous les grands personnages, rendait pas beaucoup ce qu'on lui avait donné. Il a été d'une très grande ingratitude vis-à-vis de Jeanne d'Arc. Et quand il s'est aperçu quand même que il faudrait peut-être réviser le procès qui lui avait été fait, il s'est bien aperçu qu'il pouvait pas le décider lui-même, qu'il fallait demander au pape de cette révision, parce que ça avait été un procès qui avait été fait par l'Église.
Effectivement. Avant les questions du public, qu'on vous connaisse un petit peu mieux, quel est votre livre préféré ? S'il y en avait un seul à ressortir.
Écoutez, c'est un livre que je n'ai jamais réussi à terminer. C'est pour ça que c'est mon préféré. C'est à la recherche du temps perdu.
D'accord.
Que j'ai repris, que j'ai commencé, je ne sais pas, 100 fois. Dont je lis des petits morceaux.
C'est drôle.
D'ailleurs,
c'est
dans un désordre profond. C'est tout ça. Ne suit aucune logique. Et je suis terrorisé, mais fasciné. Terrorisé parce que, contrairement à l'éducation que j'ai reçue, je n'arrive pas à en faire une synthèse. Et fasciné parce que ça nous entraîne jusqu'au degré ultime du détail, de façon invraisemblablement profonde.
Enfin, je comprends.
Et puis, il y a la langue. La langue vous porte.
C'est pas mal non plus ce que vous faites. C'est très bien.
Merci.
Votre plat préféré, pour changer de sujet ?
La choucroute.
Ah, c'est bien. Puis dans ces périodes où il fait froid, ça fait du bien. Les questions du public. Monsieur.
La France a besoin d'un De Gaulle. Serez-vous candidat aux prochaines élections ?
Cher monsieur, certainement pas. D'abord parce que c'est un métier que je ne saurais pas exercer. Je n'ai pas les qualités pour ça. Deuxièmement, parce que je considère que nous sommes ravis, pour des tas de raisons, d'avoir eu un général de Gaulle dans notre histoire de France. Les grands hommes, ils existent. Ils arrivent d'ailleurs sur scène quelquefois pour des raisons que personne ne peut expliquer. C'est un peu le cas de De Gaulle qui peut expliquer le surgissement de De Gaulle en 1940. Personne ne peut le faire de façon rationnelle. Et ensuite, je considère que, en dehors de ces périodes-là, en dehors de ces personnages, de cette dimension-là, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Et je considère même qu'on fait preuve, nous, Français, d'un certain infantilisme en essayant d'expliquer ou de croire que « Ah oui, mais s'il était encore là, ah, on a encore besoin d'un autre De Gaulle, peut-être, tout ça est vrai ». Mais en attendant, il faut se débrouiller avec ce qu'on est et ce qu'on a sur l'étagère. Donc je trouve qu'il est un peu immature, voire un peu infantile, de considérer que notre sort, qui est entre nos mains, et pas entre les mains d'autres, ça peut se discuter, mais en tout cas essentiellement entre nos mains, ce sort-là, il ne dépend que de nous. Et qu'on n'a pas à attendre la descente de l'homme providentiel quand celui-ci voudra bien arriver. Ça, c'est trop facile, c'est trop simple, et surtout, c'est faux. Donc en attendant, il faut qu'on se débrouille. Alors pour se débrouiller, moi je ne fais pas partie des candidats à la vie politique. Je trouve que le créneau a été extrêmement bien rempli dans ma famille et j'ai toujours considéré, comment vous dire, j'aurais trouvé ça un peu minable de me mettre dans la lignée à des postes qui ne soient pas au niveau de ce que l'ancêtre a été. Et comme on ne peut pas répéter... ce qu'a fait l'ancêtre, aussi exceptionnel qu'il était, mais vaut mieux pas essayer de jouer dans cette catégorie. Moi, je suis un peu, dans mon genre, je suis un peu un boxeur. Je boxe dans ma catégorie,
je comprends
pas dans celle des autres.
Ouais, je comprends, ça ne va pas être facile. Mais c'est vrai que la France est le pays de l'homme providentiel, homme avec un grand H. Hein,
parce et que oui, on parlait de Jeanne d'Arc. Mais... Ben oui, il y a eu Jeanne d'Arc. Qui, mais... Pourtant, Jeanne d'Arc, ça a été un météore. Vous avez vu cette fille.
Oui, mais ça finit toujours mal, hein, les hommes providentiels. Vous avez remarqué.
Ça, oui, certains. Oui, mais... Je veux dire, c'est plus partagé que, qu'on le croit.
Quoi. Enfin, ils ont des coups de couteau, on les étrangle,
on les fait brûler. En ce qui les concerne eux-mêmes, pour le pays, c'est plus complexe. Hein.
Ils nous remettent
ils arrivent quelquefois pour des raisons, alors comme vous dites, providentielles, voire au sens littéral.
Oui.
Et bon, très bien, parfait. Mais moi, je fais partie du cercle de la raison. Et je pense qu'on n'a pas le droit de se mettre dans une situation, de mettre dans notre pays dans une situation telle qu'elle nous conduise à désespérément rechercher à un moment ou à un autre un homme providentiel. Ou une femme, hein, puisque c'est pas sexué, Jeanne d'Arc. Hein,
grand H, bien sûr. Il n'y a qu'une seule femme.
Et ça, je trouve que c'est un travers que nous avons. Il est assez grave, parce que c'est un signe d'immaturité.
Ou peut-être que nous sommes un pays médiocre dans le sens littéral, c'est-à-dire moyen, qui n'a que des personnages extraordinaires de temps en temps. Mais ça, on pourrait en parler pendant trois heures.
On pourrait en parler longtemps, mais vous observerez que la trajectoire qui nous conduit à avoir des hommes providentiels est toujours une trajectoire descendante. C'est une trajectoire de déclin, de retrait, de difficulté. Et que tant mieux si ces individus exceptionnels surgissent. Mais il faudrait quand même qu'on se débrouille. Hein,
il serait temps.
Pour qu'on soit sur une trajectoire plate, voire légèrement ascendante. Après tout, je veux dire, les Allemands, les Anglais, les Italiens ne sont pas plus intelligents que nous. Et ils ne sont pas forcément... Enfin, je ne parle pas des Allemands parce que les hommes providentiels, un peu particulier.
Effectivement.
Mais écoutez, on devrait être capable de conduire notre démocratie de telle sorte qu'on ne se conduise pas à la fin des fins, avec une espèce de fatum terrible, un déclin progressif. Ça n'est pas admissible.
Dernière question, comment va votre papa ?
Écoutez, il va avoir 101 ans le 28 décembre prochain, enfin je croise les doigts. Il marche plus difficilement qu'avant, mais bon, quand on lui enlève son déambulateur et qu'il faut qu'il se débrouille, il marche très bien s'il veut. Et il a toute sa tête.
C'est ça le plus important.
Il a toute sa tête, à tel point que, ça va peut-être vous faire sourire, il est toujours aussi casse-pied.
Mais c'est merveilleux,
ce
finalement.
Ce qui est la preuve chez lui d'une constance et d'une santé
excellent.
Que j'ai toujours connue.
C'est très bien, et santé que je vous conseille également et que je vous souhaite. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup Yves de Gaulle, mesdames, messieurs, chevalier solitaire. Voilà la fin de ce numéro d'Expresso. Retrouvez toutes nos interviews sur timelinepodcast.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se donne rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel invité.